Bien, bonjour. Merci d'être venu pour cette journée. Alors, cette journée a été proposée par la CUTIS, qui est la Commission des usagers des technologies de l'information et de la communication électronique à l'EHESS. Elle devait être introduite par Pierre-Cyril Auqueur, président de l'EHESS, mais au dernier moment, il n'a pas pu venir. Donc, il ne sera pas là, mais nous aurons quelques mots de la part de Philippe Casella, qui est ici présent, directeur de la recherche. Donc cette journée va être également enregistrée, donc grâce à la division de l'audiovisuel de l'EHESS, et donc M. Philippe Cargresse ici est en train de faire l'enregistrement, et vous pourrez retrouver dans quelques semaines toute cette journée sur Canal U, à l'adresse qui est indiquée ici en bas. Le but de cette journée, c'est essentiellement de vous présenter un certain panorama des humanités numériques en SHS. Donc il ne s'agit pas de faire une présentation exhaustive de tout ce qui se fait dans le domaine, mais en tout cas de parcourir des domaines très différents, comme vous avez dû le voir sur le programme et comme vous le verrez au cours de la journée. Donc nous espérons que vous resterez pour l'ensemble de la journée et pas uniquement pour la partie qui vous intéressait a priori de manière directe. Par ailleurs, c'est une première journée, c'est-à-dire qu'on a l'intention d'en faire une chaque année. Et donc, bien sûr, les thèmes qui ne sont pas représentés aujourd'hui pourront l'être la fois d'après. Et on sera très content de recevoir vos suggestions pour d'autres thèmes l'an prochain. Donc il s'agit surtout d'initier des discussions interdisciplinaires d'avoir vos avis, de provoquer des réactions. Donc les exposés sont très courts, ce sont des exposés de 20 minutes avec 10 minutes de questions, donc c'est assez hétérodoxe, je crois, dans le domaine des sciences sociales. Donc l'objectif, c'est vraiment d'attirer votre attention sur un certain nombre de points. Donc, nous allons commencer par quelques mots de la part de Philippe Casella, directeur de la direction du développement et de la recherche à l'EHESS, donc à qui je passe le micro.
Donc, d'une part, je voulais présenter les regrets de Pierre-Cyril Auqueur, qui a malheureusement appris au cours de la semaine dernière qu'il n'était pas disponible ce matin, qu'il y avait une obligation qui s'imposait à lui. Mais cette absence est une absence dans la présence, mais absolument pas dans la préoccupation. Je pense que Pierre-Cyril Auqueur mesure toute l'importance de l'expérience que vous conduisez, et j'ai appris déjà que il y en aura d'autres, donc c'est un processus qui s'installe. L'importance de la réflexion qui part de la diversité des pratiques, et je salue particulièrement cette idée de partir des enjeux d'ordre technique, professionnel, scientifique ou théorique qui s'ancrent dans une réalité de notre établissement, mais aussi d'autres établissements. C'est-à-dire que face à un secteur qui appelle toutes les imaginaires et qui permet toutes les réflexions, il est important que l'on parte de faits, de comportements, de visions qui sont attachés à des objets précis. Et je pense que cette conception qui part du retour d'expérience, des projets naissants, des expériences, en cours est tout à fait compatible avec la façon dont je peux percevoir les travaux scientifiques de l'école, c'est-à-dire à la fois veiller à la qualité des sources et à l'intelligibilité des propos. Donc l'initiative qu'a pris Francis Château-Reynaud, Patrick Fridançon et Jean-Pierre Nadal est tout à fait bienvenue. Ils l'ont pris au titre de la CUTIS, mais au-delà de cette institution importante pour l'école, je pense que ça intéresse vraiment tous nos collègues. L'enjeu des humanités numériques a, pour l'école, un rôle central. Je citerai quatre points qui sont distincts, mais qui, me semble-t-il, donnent les dimensions de l'enjeu. D'une part, bien sûr, le numérique est inséparable de la vie des institutions, c'est une banalité de le dire, et en particulier d'une institution de recherche. Je pense que, deuxièmement, l'école a sa façon d'aborder cette question et certainement la façon, d'ailleurs dans la continuité de cette journée, c'est-à-dire en respectant la diversité des points de vue, en ouvrant des pistes originales et en favorisant le débat. Je pense ensuite que l'école est une école, c'est-à-dire qu'elle a comme tâche de former des citoyens, des chercheurs, des responsables, des intellectuels, qui devront maîtriser les enjeux du numérique, qui sauront sans doute en déjouer certaines facilités et utiliser toutes les richesses. Enfin, je pense que l'école, et il y a dans la salle un certain nombre de nos partenaires, est dans la cité, qu'elle a à prendre position sur les questions du numérique. Elle a à prendre de poisson quasi stratégique avec... dans ses alliances avec le campus Condorcet, avec le prêt Sésame, mais aussi avec ses partenaires, je pense bien évidemment au CNRS et à la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme, qui a en ce secteur un rôle très important à jouer. L'importance d'apporter au numérique s'est manifestée, puisque, comme vous le savez, Pierre-Cyril Auqueur a demandé à Christian Jacob d'assurer une mission sur le numérique. Christian Jacob, qui s'exprimera tout à l'heure, en dira peut-être un peu plus sur la façon dont il entrevoit cette mission. Mais je peux certifier que cette préoccupation ne s'arrête pas à la nomination d'une personne, un peu comme on crée une commission pour évacuer un sujet. Il s'agit au contraire ici d'impulser des débats, et encore une fois, cette journée y participe. Je précise que dans la préparation du contrat d'établissement, nous avons laissé une large place aux questions du numérique, bien évidemment sur le volet des recherches, en particulier sur l'ensemble des sujets concernant l'encodage des textes ou de la fouille de données, de la collecte des archives électroniques. Brigitte Mazon ici a apporté sa pierre à la réflexion récemment sur ces objets, mais aussi à la création de lieux de diffusion de ces archives, car nous n'archivons pas pour le plaisir, c'est aussi un outil pour la recherche. Deuxièmement, la création de... par un certain nombre d'initiatives que nous allons prendre et que nous avons déjà pris de participation à la communauté qui se construit autour des grandes structures de recherche, ce qu'on appelle les très grandes infrastructures de recherche, qui sont en France regroupées en deux ensembles, Quetelet Projet d'eau d'un côté et Anonis Corpus de l'autre. Enfin, dans le développement de la coopération à distance, dans l'expérience aussi de nouvelles formes d'écriture permises par la combinaison du web et des ordinateurs. Donc, un champ d'investigation, de développement d'initiatives qui devrait se compléter, bien évidemment, par une réflexion sur les mutations sociales, politiques et économiques qui sont liées à l'introduction massive du numérique. Le deuxième volet sur lequel le numérique apparaît dans le projet de l'établissement, c'est évidemment le champ de l'enseignement, de la formation, avec un intérêt particulier, puisque l'articulation qu'il autorise, sans doute de façon plus aisée, entre la recherche et l'enseignement, permet un accès direct aux sources, même aux sources en train de se constituer, permet de modifier les méthodes pédagogiques en introduisant, par exemple, des carnets de recherche, y compris dans le cadre des formations doctorales, et bien évidemment en utilisant les outils de communication à distance pour les cours et les séminaires. Enfin, le troisième volet, c'est celle de la diffusion des savoirs, et là, c'est un outil évidemment à la fois formidable et par certains aspects redoutable, qui concerne l'ensemble des outils de communication et de diffusion qui existent, c'est-à-dire bien sûr les éditions de l'école, mais aussi le projet, plus qu'un projet, Cléo, qui a, avec les différents outils qu'il a pu développer, et l'ensemble des outils de HAL et d'autres sources que l'on peut mettre en rapport avec les éditions classiques. On l'a vu, je l'ai vu personnellement quand j'ai eu la chance de participer à la discussion autour de la préparation du schéma directeur des systèmes d'information, SDSI. On l'a vu à quel point les métiers, les différents métiers qui existent à l'école ont été touchés, modifiés par les modifications des techniques et les nouvelles pratiques du numérique. Tous sont, bien sûr, rencontrent des évolutions décisives. Mais au-delà, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que c'est les interactions qui se nouent entre les professions. C'est-à-dire que non seulement ça change le génie propre de chacune des professions, mais ça modifie aussi les relations entre ces activités. Et c'est, il me semble, un chantier tout à fait intéressant pour l'école de s'emparer de ces interactions. Je pense qu'elle est particulièrement bien équipée pour ouvrir ces chantiers transversaux. Bien sûr, le schéma directeur des systèmes d'information est imparfait. Je sais que la QTIS reviendra sur ces questions. Nous avons aussi, à partir d'un document qui est loin d'être complet, à construire des priorités. C'est un débat qui concerne les instances de l'école, mais qui concerne évidemment au-delà l'ensemble de la communauté. Mais je dirais que ce qui me paraît essentiel à cette étape, c'est que le défi des humanités numériques est une affaire partagée. Et si elle est partagée, bien évidemment, entre les professionnels, qui sont les professionnels du système de l'information, de la documentation ou de la diffusion, il doit être aussi partagé par les chercheurs, par les enseignants-chercheurs, qui sont attachés à l'école. Et c'est cet enjeu, en quelque sorte, auquel, me semble-t-il, vous participez, car nous savons tous que pour qu'une innovation soit possible, il faut qu'elle soit accompagnée, qu'elle ne se décrète pas et qu'elle s'approprie progressivement. C'est, je pense, une des missions que vous êtes données, que s'est donnée d'ailleurs historiquement la QTIS, et que ces journées vont contribuer à renforcer.
Donc, je donne la parole à Éric Guichard, donc de l'ENSIB. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'ENSIB, mais donc, c'est l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Alors, Éric Guichard a publié, donc, avec Jacques Lajoie, un ouvrage qui s'appelle Odyssée Internet, enjeux sociaux. Donc, je pense que c'est une magnifique introduction. Et il est responsable, en fait, d'une équipe qui s'appelle, responsable et fondateur d'une équipe qui s'appelle Réseau, Savoir et Territoire.
Bonjour et d'une part, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si je vais faire un sprint ou un marathon, mais je vais essayer de parler de la manière dont l'écriture actuelle transforme nos perspectives épistémologiques en sciences sociales avec beaucoup de questions autour des définitions globales des choses, des concepts qu'on l'on manipule, par exemple la question des sciences sociales, mais aussi des humanités, par exemple des humanités numériques. Pour être plus précis, ce que je vais essayer de démontrer en 20 minutes, c'est que humanité et numérique sont des termes particulièrement mal choisis, il faut quand même le dire, que les transformations qui nous impressionnent dans notamment le contexte de pratiques intellectuelles qui sont les nôtres sont bien connues, attestées par les anthropologues, par les historiens. C'est essentiellement les transformations autour de l'écriture qu'il faut absolument voir comme une technique assumée et à ce moment-là, regarder comment s'organise le gradient entre les termes les plus élémentaires de cette technique et nos problématiques jusqu'à nos épistémologies. Le point qui me semble aussi important, et là on va tout de suite pouvoir faire un clin d'œil à Hugues de Saint-Victor, c'est que cette technique a toujours posé des problèmes d'interprétation, elle en pose énormément en ce moment, je reviendrai dessus, et c'est la réponse un peu globale à ces questions qui définit un ensemble de savoir-faire qu'on appelle la culture de l'écrit, et évidemment ces savoir-faire vont... Cette culture de l'écrit va un peu se répandre dans toutes les sociétés disposant de l'écriture pour être en fait une forme dominante de la culture. Et ce serait l'occasion de rappeler que, effectivement, les humanités numériques, bon, d'une part, le terme n'est pas très bien choisi, mais deuxièmement, ce qu'on appelle les cultures numériques, ce n'est pas qu'un joli paradis en devenir, c'est aussi un ensemble de relations de domination qui vont s'exercer avec des acteurs qui sont bien plus puissants que d'autres. Peut-être rappeler ce gradient entre les objets élémentaires, on peut imaginer ce que c'est qu'un texte, ce que c'est qu'un symbole de ponctuation, etc. Les savoir-faire techniques qui permettent de les atteindre, de les manipuler. J'insisterai beaucoup sur la notion d'accès, et peut-être, je n'aurai pas le temps, mais sur la notion de documentation interne qu'on a tendance à sous-estimer, et comprendre qu'à partir de ces savoirs et savoir-faire, se constitue une réflexion, une mise en perspective de ces connaissances qui constituent effectivement une culture de l'écrit. Sachant que cette culture de l'écrit, elle met du temps à se socialiser, il y en a énormément de difficultés à normer un petit peu les formes de la compréhension entre les personnes. Et c'est peut-être ça que je voudrais développer. Alors, l'adjectif numérique, ben, comme vous le voyez sur le dessin, ça renvoie peut-être beaucoup plus qu'on le croit aux mathématiques, aux calculs. Et en général, c'est censé signifier quelque chose d'un peu flou en relation avec l'informatique, les réseaux et les objets. Le problème avec cet adjectif numérique, c'est qu'à mon avis, il évacue les questions de la matérialité liées à l'écriture et d'expérience, il a été majoritairement adopté par les gens qui, vous le disiez, madame, refusaient absolument d'avoir le moindre intérêt pour l'Internet, le web et l'informatique dans les années 98. C'est comme s'ils arrivaient in extremis sous l'effet d'une injonction pour se dire « oui, oui, j'y vais et je vais intituler ça numérique plutôt, par exemple, qu'électronique ». Bon, je ne vais pas me battre contre les usages de la langue, mais je voudrais simplement faire remarquer qu'on aurait très bien pu parler, pourquoi pas, d'humanité électronique, de télématique. Alors, télématique, ça fait un peu has-been, ça fait Minitel, mais simplement, ce qui est aussi important, c'est de se regarder parler en prenant conscience du fait que nous changeons régulièrement de vocabulaire, peut-être pour satisfaire un déterminisme de l'innovation qui relève plus de l'idéologie qu'autre chose. Et là, on peut faire appel à des gens qu'on travaille en collaboration avec le HESS, comme David Edgerton, qui nous explique à quel point ce déterminisme de l'innovation n'apporte rien, sauf de la croyance. Bon, rappelez-vous aussi que les Suisses, ils ont préféré les humanités digitales. La question des humanités, ben, on peut simplement se dire que c'est une catégorie particulièrement désuète en France et qui renverrait que une sorte d'allusion à les gens qui, au début du XXe siècle, disaient qu'ils faisaient leurs humanités. Et je voudrais aussi insister sur les imaginaires un peu flous autour de l'humanisme qui seraient associés à ce terme. Enfin, si vous voulez demander à deux personnes de statuts différents ce qu'ils entendent par humanité, vous verrez qu'ils ne seront jamais d'accord. Voilà. Pour le premier point, pour comprendre un petit peu d'où viendrait ce terme humanité numérique, on peut solliciter deux hypothèses non contradictoires. La première de Dominique Vinc qui consiste à dire que c'est l'opportunisme d'une classe de discipline américaine, de l'université américaine qui sont particulièrement mal à l'aise et qui essayent de mettre un pied dans l'univers des appels d'offres. Et le deuxième pourrait être simplement le fait de personnes qui se rendent compte qu'avec les dispositifs d'écriture contemporains, on peut affiner énormément de choses, notamment par exemple des preuves, et qu'on peut, à défaut d'autre chose, adopter la casquette des humanités numériques. La carte que vous voyez tout à l'heure est une carte, par exemple, des universités à la fin du Moyen-Âge, et vous imaginez à quel point, en fouillant un peu les données, comme se propose de le faire l'ENSIB, on peut faire une carte animée de l'histoire évolutive de ces universités qui nous apprendrait bien plus que cette petite carte un peu maigrichonne. Le deuxième problème dont, à mon avis, doit s'emparer une institution comme le HESS, c'est quand même qu'est-ce qu'on met derrière les mots, derrière les catégories. On voit déjà les difficultés qu'on a à accepter les nuances ou les implicites derrière les notions de sciences sociales ou de sciences humaines et sociales. Et on peut effectivement se demander jusqu'à quel point les notions comme les sciences de la culture ou les sciences historico-herméneutique ne serait pas peut-être plus adaptée, en tout cas plus féconde épistémologiquement pour savoir d'où on parle. Donc, globalement, on est dans des définitions lourdes d'enjeux universitaires et qui masquent un peu aussi d'autres phénomènes. C'est ce que, par exemple, à l'intérieur même d'une discipline, vous avez des gens qui peuvent être plus proches d'une autre et qui n'acceptent pas nécessairement cette mise sous le chapeau de leur discipline ou de ces humanités. Donc je pense que le HESS, en tant que centre d'expertise un peu en matière d'érudition et de monde lettré, a tout à gagner à se poser la question de la signification d'une telle terminologie. On peut quand même essayer d'interpréter ce qui se passe aujourd'hui, mais comme je parlais tout à l'heure de cette question du déterminisme de l'innovation qui veut que le nouveau va transformer la société, plutôt que de s'émerveiller devant une révolution perpétuelle, essayer de lire, par exemple, des grands ancêtres comme Michel de Certeau, qui, il y a, en 1978, a écrit, à mon avis, les plus belles pages sur la manière dont l'informatique, même si c'était des cartes perforées à l'époque, transformait profondément le métier de l'historien. Peut-être aussi insister que la question, parce que je parlais d'écriture, c'est celle plutôt de la pensée instrumentée, qui est une option intellectuelle parfois oubliée par certaines formes d'intellectualisme, spiritualisme, et qu'on a aussi plaisir à remarquer aujourd'hui avec l'informatique et l'Internet à quel point cette pensée, elle est à la fois technique et collective. Alors, l'écriture est une technique, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, juste peut-être faire une allusion à quatre constituants de l'écriture qui est un peu tiré des travaux de Christian Jacob, de Clarisse Ehrenschmidt, de Jack Goody. Je n'en dis pas plus, mais je voudrais simplement rappeler que c'est une technique qui fonctionne particulièrement mal, notamment du fait des lourds problèmes d'interprétation qu'elle induit, et c'est là qu'il y a l'évocation, par exemple, Duc de Saint-Victor, qui, à un moment, se dit que l'interprétation ne peut pas être partagée, par exemple, par rapport à des textes religieux, et qu'il va falloir, à ce moment-là, inventer une méthodologie, mais particulièrement technique, particulièrement précise, pour lire le texte, non pas entre les lignes, mais le lire sur les lignes. Et ce que je crois qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'on a aussi énormément de problèmes d'interprétation, comme ça se produisait auparavant. Donc on invente des méthodes pour régler ces problèmes de l'interprétation, pour les réduire, et je voudrais juste vous montrer une méthode particulièrement mécanique et qui témoigne de ces perpétuels problèmes d'interprétation, puisque Descartes, quand il invente l'algèbre, invente un champ méthodologique qui n'est pas encore aujourd'hui partagé par tout le monde. Voilà. Donc, peut-être se rappeler qu'on est dans un régime de changement des techniques intellectuelles. A priori, on pourrait se dire, mais ça n'effleure que le système de signes, que le support, etc. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui est transformé au sein de l'écriture, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent d'accéder, par exemple, aux textes qui sont transformés. Donc ce sont des savoir-faire, ce sont des cultures qu'il faut déplacer. Et c'est peut-être ça un peu le malaise des sciences humaines par rapport à l'écriture contemporaine. Alors, passez vite sur ce qui se passe aujourd'hui, en peut-être disant qu'il y a deux choses qui, au moins pour nous, alors c'est vrai que je définis le « nous » tout en disant « mais attention, il faut être particulièrement prudent par rapport aux amalgames disciplinaires », mais ce qui me semble important, ce qui me semble aisé aujourd'hui avec l'informatique, c'est à la fois les apports combinatoires qu'offre cette écriture et la manière dont cette facilité s'étend à d'autres objets qui peuvent rentrer dans le régime de la preuve. Alors, la combinatoire, c'est toujours un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il suffit de connaître les outils de manipulation des objets textuels élémentaires, sachant que puisque les choses changent un peu dans la dans les profondeurs de l'écriture, les catégories antérieures fonctionnent plus vraiment. Par exemple, on attrape un peu tout ce qu'on veut, y compris de la ponctuation, avec les expressions irrégulières. Et que cette expérience combinatoire s'accompagne, là, on l'oublie beaucoup, d'une sorte de maîtrise de cette combinatoire qui renvoie donc à des outils, à des savoir-faire. Et en ce moment, on pourrait presque avoir l'impression qu'on fait son marché avec tout ça, parce qu'on n'a plus à réinventer la roue. Il faut juste trouver la library, c'est quand même quelque chose d'important, qui va vous permettre d'agencer les briques logicielles que vous désirez. Donc, ce qui me semble important, c'est de prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, comme hier, se construit une culture spécifique à l'écriture qui se compare tout à fait avec, par exemple, celle des mondes lettrés. Peut-être aussi des petites remarques, a priori élémentaires, mais qui montrent à quel point on a changé de monde depuis peut-être 30 à 40 ans, alors qu'on n'en a pas toujours la sensation. Essayez d'imaginer une enquête, par exemple, sociologique, vous avez 5000 individus, 900 questions, c'est le genre de choses qui arrivent relativement souvent, et imaginez-vous, essayez d'appréhender cet objet enquête, ou sans ordinateur. C'est-à-dire que globalement, vous ne compliquez pas la vie, vous imprimez. Hein, c'est-à-dire que vous avez une sorte de feuille de papier grande comme cette salle. Et vous vous rendez compte que vous ne pouvez absolument rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous pouvons réaliser intellectuellement, des idées que nous avons, qui sont intimement liées à tout le système d'écriture, en l'occurrence, au support, aux outils de documentation, d'interprétation. Je voudrais juste insister sur cette histoire de méthode, parce qu'on parle beaucoup, sans être très très précis, des données, de cette forme de publication, etc. Et puisque, à mon avis, l'endroit où les choses se passent de manière la plus claire sont là où se produisent des déplacements méthodologiques, je voudrais faire un peu de publicité pour le logiciel analyse développé par les historiens de Paris 1, qui est un peu à mon avis, le meilleur logiciel méthodologique pour les sciences sociales actuelles. Le deuxième point, après la combinatoire, il suffit simplement de jongler avec des signes et on se rend compte que ce jonglage, un peu à l'équivalent de ce qui se passait auparavant, donne les moyens d'organiser une pensée. Le deuxième point qu'on rencontre avec l'informatique, c'est le fait que tout ce qui est relevé du régime de la preuve se retrouve basculé dans l'instrument qui en permet au mieux l'exercice, c'est-à-dire le texte. Et vous avez des formes de textualisation de l'image qui sont complètement sidérantes, qui permettent des nouveaux travaux. Et je crois qu'on en parlera un peu cet après-midi. Je voudrais parler un peu des cartes et aussi de la photographie. Ce qui se passe dans la photographie, c'est pour faciliter l'interprétation. On va documenter la photographie, mais on ne va pas prendre le risque qu'on prenait avant, c'est-à-dire de créer une étiquette qui se colle derrière la photo et qui risque de disparaître. On insère l'étiquette dans la photographie. Alors évidemment, la culture de l'écrit associé, c'est encore savoir manipuler cette étiquette, comparer des photographies qui ont la même étiquette. Il y a encore un savoir de l'écrit associé. Si je fais retour à la carte, je voudrais juste vous montrer ici, vous voyez une carte, je pourrais expliquer ce que c'est tout à l'heure. C'est écrit en SVG, c'est-à-dire qu'à un moment, les communes qui sont en bleu, il y a marqué fil égale RGB 30 210 255. C'est du texte. Si jamais je veux transformer le RGB 30 210 255 en blue avec un traitement de texte en demandant remplacer partout, j'ai une nouvelle carte qui apparaît. D'accord ? Pour le numérique, c'est exactement la même chose. Je n'insisterai pas sur ExifTool, qui est l'outil de documentation absolument précieux pour toutes les photographies, mais vous voyez les simples manipulations textuelles que je peux faire ici, qui me mettent sur la photo d'Amsterdam un cercle rouge et un intitulé « Photo personnelle » en bas à droite. Tout cela est mesuré, calculé, écrit. Alors, peut-être presque pour conclure, je voudrais poser la question, est-ce que, en fait, la maîtrise de l'écriture est une condition de l'exercice intellectuel, du savoir-penser? On pourrait se dire que oui, Et là, je fais un clin d'œil à des formes, des outils scribaux particulièrement élémentaires, on reconnaît BibTeX, qui vont effectivement permettre une manipulation de la bibliographie en faisant un autre clin d'œil, évidemment, à Leibniz, à Granger et à Parocchia. Et ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on commence à avoir l'impression qu'il faut effectivement développer les méthodologies les plus sophistiquées, par exemple statistiques, pour profiter de tout ce système scribal contemporain, eh bien, il faut aussi faire un retour aux sources, c'est-à-dire apprendre la combinatoire la plus élémentaire. Et on parlait tout à l'heure d'éducation, hein, d'alphabétisation, et je voudrais simplement montrer quelques éléments que l'on connaît, qui font un peu partie du registre de notre alphabet étendu, et dont la maîtrise en termes de gymnase de l'intellect, en termes de jonglage, conditionne, à mon avis, l'organisation de l'activité intellectuelle, de la pensée. Mais ça va plus loin. Par exemple, en ce moment, ce qu'on réalise avec la simple maîtrise de cette combinatoire, c'est que elle permet tout, notamment toutes les formes d'édition. Hein. Alors je donne par exemple ce que vous voyez là tout de suite, c'est-à-dire j'ai un texte brut, je le décline pour qu'il satisfasse quelques contraintes de la tech, et à partir de là, je m'offre un peu ce que je veux, de l'ePub à l'XML en passant par le PDF, quitte effectivement à créer une combinatoire scribale sur cette combinatoire avec des outils qui le permettent. Et là, non seulement je peux investir le champ éditorial, mais je peux comprendre aussi les modalités de la légitimité savante, par exemple les relations qui font que entre les éditeurs et les universitaires. Je donne un exemple rapide, réalisé par mes soins, et j'en viens à la question de l'interprétation. En rappelant qu'on l'oublie, mais aujourd'hui, les questions d'interprétation sont particulièrement vives avec l'informatique, avec l'Internet, etc. Elles le sont entre les humains, elles le sont, regardez à quel point on risque d'avoir des conflits quand on s'exprime mal par mail et la puissance à laquelle ces conflits gonflent. On peut faire un clin d'œil à l'invention du point d'interrogation et de la ponctuation, vous savez, ce Q couché sur les textes latins pour dire « attention, c'est une question cette phrase, ce n'est pas une assertion », avec l'importance du point-virgule dans la programmation. On peut aussi, pour les gens qui sont anthropologues, se rendre compte à quel point on a du mal à communiquer avec un moteur de recherche. Tapez « mariage femme nouère » pour en savoir un peu plus sur ce qu'ont écrit Evans Pritchard et Héritier Auger. Vous allez voir que le moteur de recherche, il vous fait une toute autre proposition. On pourrait se demander jusqu'à quel point Facebook n'est pas une forme de formatage des codes de l'interprétation actuelle. Rappelez aussi, on en parlera tout à l'heure, que des personnes comme Jean-Gabriel Ganassia développent des logiciels qui facilitent l'interprétation, le commentaire, la documentation. Et se demander jusqu'à quel point, peut-être pour conclure, si effectivement les humanités numériques sont une bonne entrée en matière pour cet ensemble des questions qui touchent à l'ensemble de nos technologies de l'intellect, et s'il n'y aurait pas intérêt à aborder les choses de manière concrète, c'est-à-dire par exemple effectivement en réalisant des objets, des instruments qui aujourd'hui pourrait sembler étonnant par rapport à ce qu'ils étaient au 19e siècle, mais qui, on sait très bien que, par exemple, l'algèbre de Descartes que je vous ai montré était quelque chose de particulièrement étonnant en termes d'aventure scribale et intellectuelle par rapport à ce qui pouvait se passer dans l'Antiquité. Donc, à la fois être dans une logique de production et de réflexion qui pourrait absolument s'articuler avec des savoir des anthropologues, des historiens, des mondes lettrés. Donc je pense que la question qui est assez fascinante aujourd'hui avec la forme contemporaine de l'écriture, c'est que non seulement on se rend compte qu'effectivement on peut inventer, découvrir des nouvelles choses, éventuellement rafler des financements simplement du fait qu'on maîtrise certaines combinatoires scribales, et aussi réaliser à quel point ce jeu combinatoire offre la ouvre à une réflexivité qui permet de comprendre les gradients, les circulations entre des savoir-faire, des savoirs, des problématiques, jusqu'aux épistémologies, par exemple, des sciences sociales. Je crois qu'on commence à m'expliquer qu'effectivement, 20 minutes pour expliquer tout ça, c'est bien trop peu. Donc je vous invite à relire Goudy, Granger et Parocchia, et je vous remercie.
Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup, Eric, pour cette brillante introduction qui vraiment nous a bien mis les choses à la bonne distance. Je trouve que tu as tout à fait raison sur ces questions-là. Et je pense que ce que tu as introduit va résonner toute la journée. Et ça, c'est vraiment très, très réussi. Donc, on a bien fait de te mettre en premier. C'était une bonne idée. Juste un point sur ta notion de technologie de l'intellect, on voit très bien la généalogie et ton propos sur l'écriture que je partage complètement. C'est la question du public, c'est-à-dire que quand même, sur humanité numérique, moi je ne me prononce pas, je suis d'accord avec toi sur l'effet label, comme toujours, de toute façon il y a des espèces de trucs massifs comme ça qui s'imposent et on a du mal à y couper, effectivement, quand on veut suivre en courant, bon, on est obligé de dedans. Mais par contre, sur la question des publics, au sens du pragmatisme, c'est-à-dire de la manière dont se forment des publics et dont l'écriture est elle-même écrite par des publics différents, tu te réfères beaucoup au monde lettré comme un peu référent ultime. Alors, il me semble que, je ne veux pas brancher sur la démocratie électronique de Carnot et compagnie, hein, mais on voit bien qu'il y a un changement qui n'est pas anodin pour les sciences sociales, qui est que les publics qui vont produire cette écriture, s'emparer de la combinatoire que tu décris et développer les instruments, en tout cas entrer dans les instruments beaucoup plus qu'avant, ne sont pas les mêmes. Alors, comment tu penses cette... Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est un régime supplémentaire, une superposition de choses que tu relativises, etc.
Merci pour cette question qui permet d'avancer la notion de culture numérique. C'est-à-dire, effectivement, on pourrait dire on n'a pas les mêmes publics, on a des nouveaux entrants. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument important. Et ces nouveaux entrants, par exemple... qui peuvent effectivement débattre pour des questions politiques sur Internet, etc., mais qui sont aussi tout simplement des nouveaux entrants dans le domaine des sciences sociales. Ça veut dire que on va le voir et le remarquer. Aujourd'hui, quand on sait écrire, pour le dire autrement, quand on est physicien ou informaticien, on investit beaucoup plus facilement le domaine des sciences sociales et du coup des questions qui peuvent s'y poser que quand on est historien avec une littératie qui reste fixée à l'imprimé. Donc là, effectivement, il y a des nouveaux publics, il y a donc des nouvelles problématiques, il y a l'importation de formations discursives qui se réalisent. Et en même temps, la chose à laquelle j'insisterai, c'est que certes, il y a des nouveaux publics, mais c'est quand même, j'ai envie de dire, si je reprenais les propos à la Bourdieu, c'est quand même des gens qui savent écrire. Alors, on a toujours des gens qui peuvent apprendre à écrire tout seul dans leur coin, mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est l'évacuation de pas mal de publics. C'est-à-dire que par rapport à tous les gens qui absolument ne savent pas écrire, ne maîtrisent pas cette combinatoire, ne maîtrisent pas la documentation associée, et ni la réflexivité... Mais ce sont des personnes qui sont les meilleurs clients des logiques de domination de la culture qui est réalisée par des acteurs qui, d'ailleurs, ne sont plus tout à fait les mêmes qu'avant. Donc, il y a aussi d'autres acteurs, par exemple, l'industrie informatique contemporaine. Je peux affiner.
Moi, j'aimerais vous poser une question qui est peut-être loin de ce que vous dites, mais est-ce que ça implique d'avoir une écriture complètement reconceptualisée ou pas? Parce que je pense un peu à une revue que moi je trouvais absolument exceptionnelle, qui avait été proposée par Valentine Roux, qui est d'ailleurs publiée avec la MSH, qui s'appelle Archéothèque, et qui était une manière complètement nouvelle de présenter les données archéologiques. Parce que ça permettait, les archéologues qui ont des centaines et des centaines de données, et ça permettait d'avoir un article qui ne soit pas du tout linéaire, comme on les retrouve la plupart du temps, mais qui était un article qui permettait donc et de visualiser l'ensemble des données qui est gigantesque, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne sais pas si ça représente, et finalement c'est une revue qui pour l'instant est en stand-by, donc est-ce qu'il y a beaucoup de revues de ce type-là qui naissent?
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de revues qui naissent? Est-ce qu'il y a beaucoup d'instruments qui apparaissent? J'ai envie de dire oui. J'insisterai plus sur les instruments que les revues, parce que si les revues ont du mal à se développer, c'est aussi parce qu'il y a des logiques d'inertie, par exemple, culturelles dans les mondes. Et puis aussi, les gens sont un peu débordés, etc. Donc, la question de la naissance et la pérennité de la revue est un peu complexe. J'y répondrai pas directement. La chose sur laquelle, qui me semble importante, c'est que je pense que parler de rupture conceptuelle dans les modalités de l'écriture, non. Ça ne peut pas se faire, notamment parce que la culture, c'est aussi une affaire d'inertie. On a nos habitudes, elles évoluent lentement, il y a beaucoup de routines, etc. En revanche, ce qui me semble important, c'est effectivement le fait d'avoir conscience qu'on peut, à partir de cette combinatoire, réaliser des nouveaux objets. Je voudrais juste montrer un objet qui date de... On va regarder ce qui se passe. Qui date de 1999, donc c'est effectivement, c'est pas du SVG complètement design, etc. Mais c'était la manière de réaliser des cartes de l'histoire de l'immigration à partir de données qui étaient quand même d'une laideur qu'on peut pas imaginer, hein. Donc, et là, je pense qu'on commence à comprendre effectivement comment on peut organiser un raisonnement. Il ne s'agit pas que de faire une combinatoire autour de la donnée. Si je continue en faisant le lien avec la question tout à l'heure de Francis, c'est que on a au niveau de l'érudition une sorte d'invasion ou d'impérialisme des pratiques d'écriture des scientifiques, des sciences exactes. Hein. Et on le voit particulièrement bien. Parce que LaTeX, ce n'est pas simplement un outil particulièrement confortable pour écrire des livres sur Second Life ou sur les statistiques de l'intellect, mais c'est un outil qui explicite à quel point une table des matières, une liste des graphiques est importante, mais beaucoup plus que ça, c'est là que j'insiste sur la notion de documentation interne, c'est-à-dire que l'écriture, c'est un instrument formidable pour organiser son raisonnement, mais de soi à soi, on est gêné quand à un moment, on n'arrive plus à comprendre une démonstration, à ce moment-là, on nous dit, ou on a écrit nous-mêmes, attention, CF, l'équation 13, trois pages plus haut. Et là, on voit comment le développement de la pensée peut s'opérer en s'appuyant sur une architecture textuelle particulièrement lourde. Et j'espère que ça répond un peu à votre question.
Donc Marie Lapeydrie est conservateur du patrimoine, responsable du service des nouveaux supports aux archives nationales et fait partie d'un projet du projet VITAM, qui est interministériel archivage numérique. Donc VITAM veut dire donc valeur... valeur immatérielle transférée aux archives pour mémoire. Et donc, elle va nous parler des archives électroniques, l'anticipation des archives au service de l'accès à l'information.
Merci beaucoup. Alors, moi, je vais avoir un discours peut-être un peu plus pessimiste, parce que face aux humanités numériques, cela nous laisse énormément de possibilités de traitement de l'information. Mais moi, j'ai une position légèrement différente, qui est celle de l'archiviste, l'archiviste qui conserve et qui a pour objectif de pérenniser tout votre travail. Alors, ça va être à la fois deux choses, puisqu'on m'a sollicité pour intervenir. Je voulais le voir de deux manières. La première, rappeler que les archivistes, et pour ma part les archives nationales, sont dépositaires donc, de la mémoire de la France, de l'État, et que cette mémoire existe, vous l'utilisez évidemment, inlassablement, en travaillant sur nos fonds. Et puis, rappeler aussi qu'il existe d'autres matières. Alors, évidemment, pour reprendre la définition électronique qui a été mentionnée juste avant, évidemment, cette matière, ce sont les archives électroniques que nous conservons également et qui doivent être aujourd'hui valorisées, confrontées à l'univers papier et mis en lumière. Et je pense que les humanités numériques vont nous permettre, dans les prochaines années, de le faire. Donc, c'est aussi un appel, à la fois une invitation au voyage dans un univers qui vous sert, en tout cas j'espère vous servira, et en même temps l'importance de valoriser ces fonds à travers les humanités numériques. Alors, juste avant de commencer cette présentation sur les archives électroniques, je voulais faire un rappel sur ce que sont les archives. Alors, pour certains, cette définition est connue. mais je voulais les rappeler que c'est une disposition, une définition donnée par le Code du patrimoine, qui est donc une loi, et qui indique bien que ces archives, on ne les distingue pas par rapport à leur date, leur lieu de conservation, leur forme ou leur support. Donc les archives papier, comme les archives électroniques, ont le même statut, sont conservées de la même manière et peuvent être demandées pour une commission rogatoire, par un juge, par un chercheur ou par l'administration de la même manière. Évidemment, nous produisons des archives publiques et nous produisons des archives privées. Alors juste pour ma part, pour qu'est-ce qu'un archiviste, il faut voir que l'archiviste ne conserve pas tout. Et sa fonction première, c'est d'identifier. D'identifier quoi détruire. Alors je peux choquer des gens, mais ma fonction première, c'est bien d'éliminer. Alors que vous, évidemment, plus vous avez d'informations, plus vous êtes content. Nous, plus on a d'informations, plus on doit et on se doit, pour valoriser l'information que nous conservons, plus on se doit effectivement d'identifier cette information qui a un caractère essentiel pour le fonctionnement de l'administration, mais également pour les chercheurs. Et on doit identifier ce qui finalement n'a que peu d'intérêt. Alors c'est un choix scientifique qui est basé sur des circulaires, donc on ne fait pas tout ce que l'on veut, mais c'est aussi un critère d'appréciation que nous devons avoir qui est assez fondamental. Donc évidemment, un travail scientifique pour évidemment se repérer dans la masse d'informations, et je vais y revenir, que nous devons traiter aujourd'hui. Alors, les archives nationales bénéficient depuis le début des années 80 d'un système d'archivage électronique qui s'appelle Constance, pour conservation et stockage des archives nouvelles constituées par l'électronique. Il faut savoir que ce système Constance a été créé à la suite d'un groupe de travail qui a réuni la direction des archives de France, les archives nationales, l'école des mines et la direction des systèmes d'information du ministère de la Culture. Je précise que nous appartenons au ministère de la Culture. J'aurais peut-être dû commencer évidemment par cette information. Pendant donc, entre 1978 et 1981, ce groupe de travail s'est réuni autour de quatre volets et quatre objets, puisqu'il y avait une forte demande de la part de l'administration pour conserver des objets dits informatiques à l'époque, et qu'étaient les enquêtes statistiques, les fichiers de gestion, les bases de données, les documents bureautiques. L'État s'était doté d'un certain nombre de bases de données depuis les années 50, suite à la reconstruction, pour analyser la reconstruction, pour analyser évidemment notamment les flux d'immigration, ou encore notamment on conserve une enquête liée à la première application de la loi sur l'IVG, donc autant de mutations de la société française pendant évidemment à partir des années 50 et jusque dans les années 80. Donc il fallait pouvoir répondre à ces obligations. Alors l'avantage, c'est que nous avons bénéficié d'une extension de notre site basé à Fontainebleau, où nous avons pu construire une salle des machines et une bandothèque. Alors l'image que vous voyez à l'écran, qui est très exotique, cette image ici, c'est évidemment la première bandothèque des archives nationales avec des supports de conservation magnétiques qui étaient les seules bandes magnétiques qui existaient à l'époque, des bandes IBM. Alors aujourd'hui, c'est conservé à titre musée, enfin c'est le musée de Fontainebleau, puisque nous ne pouvons plus rien lire sur ces bandes magnétiques, mais cela fascine toujours les services informatiques qui nous visitent parce que, en général, toutes ces bandes ont été détruites pour des questions à la fois de sécurité et de lecture de l'information. Donc évidemment, dès le départ, et c'est ça qui était très intéressant, c'est une équipe mixte d'archivistes et d'informaticiens, d'autant plus que la direction des systèmes d'information du ministère de la Culture, dans les années 80, était basée à Fontainebleau. Donc le travail à la fois sur le fond et la forme, la préservation des données numériques, a été faite de manière conjointe par les scientifiques et les techniciens. Évidemment, ça, de toute façon, ce n'est pas une manière péjorative, je tiens à le préciser, puisque l'archiviste doit se reposer sur la technique pour pouvoir préserver l'information. Alors évidemment, aujourd'hui, nous avons des fonds d'archives électroniques. Donc c'est là que je vous invite évidemment à réfléchir à une réutilisation de ces fonds, ce que fait l'administration aujourd'hui, mais encore trop peu de chercheurs. Nous avons aujourd'hui 315 fonds d'archives électroniques conservés aux archives nationales pour donc un total de 15 téraoctets de données. Alors je tiens à le préciser, ça peut vous paraître peu, puisque vous pouvez aller à la FNAC, acheter 15 disques durs externes d'un téra, et vous allez me dire, mais c'est parfait, je conserve autant de données que les archives nationales. Évidemment, je tiens à le préciser, nous préférons compter en masse, c'est-à-dire masse dans un sens technique, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui 65 millions d'objets au sein de notre plateforme d'archivage électronique, 65 millions de fichiers qui sont récollés de manière permanente pour s'assurer qu'ils sont lisibles et évidemment compréhensibles. S'il y avait un maître mot, ça serait intelligibilité. Nous ne sommes pas des machines et nous n'allons pas le devenir. Nous avons également des versements emblématiques qui ont structuré notre méthodologie, comme ceux des recensements de la population de l'INSEE ou encore les enquêtes statistiques de l'INED qui ont été sauvées donc dans les années 90. Donc sur 27 enquêtes statistiques que nous devions sauver, au bout de 3 ans de travail, de 3 ETP au sein des archives nationales, nous en avons sauvé 21. Pour vous donner une idée, c'était des bases de données qui étaient sur des disquettes 3 pouces et demi et nous avions perdu toute la documentation associée et toute la connaissance, toute la mémoire de ces enquêtes. La seule chose que l'INED savait, c'est que c'était des enquêtes fondamentales pour la compréhension à la fois de l'Institut, mais aussi de la société française dans les années 70. Donc évidemment, cela m'amène à parler de ces archives qui sont accessibles et exploitables aujourd'hui aux archives nationales. Comment a-t-on pu les conserver depuis les années 80 ? Alors que certaines enquêtes dataient des années 50. Donc on a un fonds qui est parti d'un fonds le plus vieux du monde. Et en même temps, la façon de préserver ces données, c'est un travail conjoint archiviste et informaticien basé autour des 3 C alors, qui font partie de la doctrine archivistique, collecte, conservation et communication. La collecte, c'est le fait d'aller chercher donc auprès de producteurs de données que vous êtes également vos données, c'est les documenter, évidemment les contextualiser. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est les conserver, c'est-à-dire s'assurer de leur pérennisation, à la fois en termes de format, en termes de lisibilité, en termes de conservation des supports, et enfin pouvoir les rendre accessibles. Parce que je tiens à le préciser, il n'y a pas d'archivage électronique sans accessibilité des données. Et c'est le maître mot, et je pense que c'est assez fondamental de le souligner, puisque l'archivage électronique, ce n'est pas que de la pérennisation. C'est aussi de la pérennisation, mais c'est surtout l'accès, la communication de ces données. Sans ce volet communication, nous ne ferions pas d'archivage électronique, mais nous ne ferions que de la pérennisation. Alors, qu'est-ce que la communication et qu'est-ce que l'accès ? C'est tout simplement mettre à disposition des chercheurs, en salle de lecture, les fichiers informatiques d'origine, évidemment, qui ont évolué en termes de format au cours donc des 3 dernières décennies, mais également donner toute la documentation associée à ces données pour les rendre intelligibles. Et évidemment, cette communication n'est pas possible sans une intervention en amont des archives nationales, mais j'allais dire plus largement des archivistes. Et là, je vois ce foisonnement d'initiatives des humanités numériques, d'outils utilisés pour mener à bien vos recherches, mais j'allais dire attention, faites attention, parce que en fonction des outils que vous allez utiliser, vous pourrez ou non transmettre tout votre travail et votre savoir aux générations futures. Et je pense quand même que l'un des objectifs, c'est que tout votre travail puisse être réutilisé dans 10, 20, 30, 50, voire 100 ans. Et pour ce faire, vous devez utiliser le plus possible des outils documentés, open source et donc non propriétaires. Vous devez documenter vos processus et vous devez évidemment en remettre une copie au service approprié pour s'assurer que votre travail ne sera pas perdu. Pour ce faire, il y a quelques recommandations, avoir des règles de nommage prédéfinies et compréhensibles, et même, par exemple, une chose toute bête, faire une liste des acronymes que vous utilisez dans vos documents. C'est quelque chose de très simple, mais qui va permettre même à votre collègue au sein d'un laboratoire de pouvoir comprendre plus facilement de quoi il en retourne. Alors évidemment, pour s'assurer de la qualité des données, c'est ce que nous appelons qualité des données, il y a une personne ressource qui est l'archiviste. Alors, personne ressource, maîtrise d'ouvrage, pardon pour cet acronyme MOA, l'archiviste, parce que sans l'archiviste pour pérenniser ces données et les archiver, on ne pourra pas réutiliser vos documents et les comprendre. Alors là, j'ai juste fait, pour vous expliquer de quoi il en retourne, pour comprendre ces archives électroniques, c'est à la fois l'information numérique et toutes les informations permettant de les décoder. Et j'aime bien prendre cette image d'une boîte de Lego. Lorsque vous achetez une boîte de Lego, vous avez un ensemble de cubes de couleurs différentes, de tailles différentes, de formes différentes. Mais ce que vous achetez en achetant une boîte de Lego, c'est un vaisseau spatial, une maison, un avion, que sais-je. Et évidemment, l'objectif, c'est de reconstituer votre Lego, donc cette boîte de Lego, c'est-à-dire votre avion, ce vaisseau spatial ou autre, à partir d'un plan qui vous permet de mettre en forme, à partir de tous ces petits cubes de formes et de couleurs différentes, de mettre en forme votre vaisseau spatial. Donc évidemment, vous avez besoin des cubes, donc des briques de Lego, vous avez besoin du plan associé, et évidemment, vous avez besoin d'une sorte de guide, de mode d'emploi, qui décrit toutes vos actions. Et donc, lorsqu'on conserve aux archives nationales des archives électroniques, on conserve les briques de Lego, c'est-à-dire le fichier nativement numérique d'origine, avec cette suite de 0 et de 1, qui n'est pas intelligible par un être humain. La documentation dite associée, donc pour les bases de données, c'est vos dictionnaires de structure, c'est les dictionnaires de données. Et l'instrument de recherche, qui est un outil que les archivistes ont développé pour le papier, mais qui est adapté aujourd'hui pour l'électronique, et qui va décrire, par exemple, les dates, les auteurs de cette base de données, le contexte de production, expliquer, par exemple, le laboratoire d'origine, l'utilisation qui a pu être faite de la base, y associer quelques copies d'écran, puisqu'au final, ce que l'on va archiver, c'est certes votre base de données, mais ce n'est pas forcément la base de données que vous pouviez avoir sur votre écran d'origine, puisqu'on archive les données à plat et qu'on reconstitue ensuite l'information à partir de la documentation associée et de l'instrument de recherche. Donc, il ne faut pas s'étonner que si vous faites une demande de communication administrative ou une demande de communication en salle de lecture d'une base de données conservée aux archives nationales, on va vous livrer un fichier électronique, un instrument de recherche et une documentation associée qui peut être électronique papier. Et donc, nous avons, notamment pour les premières bases de données des années 50, une documentation papier avec des magasins d'archives papier. Donc, on a beau être dans un service d'archives électroniques, nous conservons évidemment des archives papier, ce qui n'est pas toujours une évidence. Et donc, évidemment, sans ces informations minimales, aucun archivage n'est possible. Cet archivage doit être indépendant de toute technologie et évidemment le support de conservation doit être choisi avec le même souci, même si le support de conservation, lui, n'est pérenne et valable que environ 5 ans. Donc on doit faire des migrations de format et de support environ tous les 5 ans. C'est une constatation de fait et donc une pratique qui est rentrée aux archives nationales très, très tôt, qui fait qu'aujourd'hui on a achevé à la fin de l'année 2011 notre 5e migration de format et de support. Alors évidemment, pour faciliter l'accès et la valorisation des fonds d'archives électroniques, nous avons un problème aujourd'hui. Et c'est aussi un peu un appel à candidature pour avoir des très bonnes idées pour valoriser ces fonds, puisque notre système a été créé dans les années, au début des années 80, a su s'adapter certes à l'évolution de l'informatique, mais nous avons aujourd'hui besoin d'une puissance de traitement et de recherche au sein de nos fonds qui est beaucoup plus importante. En effet, d'après nos dernières estimations, nous estimons que dans moins de 10 ans aux archives nationales, nous devrons archiver 7 pétaoctets de données, ce qui correspond à des centaines de milliards de fichiers. Donc évidemment, face à cette masse, il faut qu'on puisse retrouver rapidement l'information et donc que cette information soit décrite de la manière la plus fine possible et la manière qui nous permette de retrouver l'information et de la valoriser rapidement. Alors nous avons un projet qui a été mentionné tout à l'heure, qui est le projet Vitam. Je vais vous en parler un petit peu parce que j'espère que ce projet amènera à travailler avec la communauté des chercheurs et pourquoi pas avec le HESS, puisque c'est un projet interministériel que nous menons pour à la fois mettre à jour notre système d'archivage électronique Constance, mais également pour doter le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères d'une plateforme d'archivage électronique, à la fois pour les archives courantes et intermédiaires et pour les archives définitives. Nous voulons développer donc, et nous développons aujourd'hui ce projet donc, depuis plus d'un an avec la direction, la sous-direction des systèmes d'information du ministère de la Culture, la direction générale des patrimoines au ministère de la Culture, avec le ministère des Affaires étrangères, archivistes et informaticiens, avec le ministère de la Défense, alors ma diapo n'est plus à jour, mais depuis vendredi, la direction générale des systèmes d'information et de communication du ministère de la Défense, donc la partie technique s'est jointe au projet, et le ministère de l'Économie et des Finances. Ce projet est porté aujourd'hui par la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication. Je suis navrée pour tous ces organismes qui sont rattachés à Matignon, donc la DISIC qui porte aujourd'hui le projet, parce que nous lui proposons un schéma qui évidemment est très intéressant. Alors ce schéma fonctionnel général de ce système d'archivage électronique, comment vous l'expliquez en trois mots et pour être compréhensible par le plus grand nombre? Ce système évidemment se base sur l'Open Archival Information System, l'OAIS, ce guide d'archivage électronique que certains peut-être d'entre vous connaissent. Et l'objectif, c'est d'offrir à l'administration centrale une brique logicielle qui soit mutualisable, adaptable à l'environnement d'archivage intermédiaire et définitif pour l'État. Et vous savez très bien qu'en ces temps de restrictions budgétaires, ce genre de proposition est forcément portée par Matignon. L'objectif est de pouvoir s'interconnecter avec toutes les applications métiers et pourquoi pas également avec toutes vos bases de données et toutes vos applications que vous pourriez développer, donc en termes de SIG entre autres, et d'offrir ainsi un archivage pérenne de vos données pour une transmission aux générations futures. Donc l'objectif, c'est d'être au maximum open source, c'est d'être évidemment maximum maître de ces données et des différents outils qui seront choisis pour évidemment répondre à cette masse d'informations et à ces univers administratifs et de recherche divers et variés. Et donc en termes de calendrier, nous avons débuté donc en 2012, nous sommes dans une phase de définition et de contractualisation des marchés, en même temps que nous menons une phase d'expérimentation sur les nouvelles technologies liées au cloud computing, et nous venons de terminer les spécifications générales, fonctionnelles et techniques de cette brique logicielle Vitam. Donc nous espérons pouvoir collaborer à l'horizon 2014, de fin 2013, début 2014, avec toutes les communautés françaises évidemment, et étrangères, puisque nous menons cette réflexion au niveau également européen. Et nous espérons donc collaborer avec tous les acteurs, notamment des humanités numériques, et avec toute la communauté des chercheurs, pour pérenniser donc au sein des archives nationales donc toutes ces données de la recherche et tous les travaux que vous pourriez effectuer au cours de vos recherches. Et juste pour finir, je tenais à vous signaler une petite chose qui est d'actualité, qui est un règlement européen qui est en train, l'application d'un règlement européen sur l'anonymisation des données produites par l'administration centrale. Et juste vous signaler que l'Association des archivistes français a lancé une pétition la semaine dernière et je vous invite fortement à la signer, puisque si ce règlement européen passe, toutes les données produites, toutes les données personnelles sur lesquelles vous pourriez travailler seront anonymisées avant versement dans les services d'archives et donc ne pourront jamais être exploitées. Je vous remercie.
On a l'impression, ben là vous parlez de cloud computing, et puis bon, la génération suivante, je ne sais pas ce que ça sera, donc vous allez avoir comme ça des glissements permanents. Donc on a vu un organigramme assez impressionnant, très bureaucratique, on va dire, dans son forme d'écriture. Donc comment vous gérez à la fois l'anticipation des transformations, des tendances, des trends, tout ce que vous voulez, et comment justement il n'y a pas une méta-technologie, en tout cas un espace suffisamment stabilisé qui assure précisément qu'on puisse être indépendant de micro-technologies ou de technologies dont l'obsolescence est plus ou moins déjà annoncée.
Alors justement, c'est vraiment le cœur de la méthodologie Constance et c'est pour cela qu'on s'en inspire beaucoup pour Vitam. Aujourd'hui, toutes nos données sont à plat. Donc, par exemple, pour les bases de données, c'est un format CSV. Et on conserve toute la documentation pour reconstituer ces bases de données. L'objectif, c'est vraiment être indépendant de toutes les technologies possibles et inimaginables. Notre outil est sous une base... c'est-à-dire que notre ordinateur, aujourd'hui, ce n'est pas un logiciel développé par une industrie quelconque. C'est entièrement en ligne de commande, développé par la direction des systèmes d'information du ministère de la Culture. C'est un code qu'on maîtrise complètement. L'utilisation unique que nous faisons des outils extérieurs, notamment pour les migrations ou de formats... sont des outils open source dont nous avons évidemment, dont nous gardons la maîtrise parce que nous conservons tout le code derrière et toute l'information et toute la documentation associée. Et donc évidemment, ce qui sera intéressant à voir, c'est que notamment, alors aujourd'hui on a la chance, c'est qu'on est quand même sur des choses très simples, la bureautique, les bases de données ne sont pas forcément les choses les plus compliquées à conserver. Par contre, avec notamment le développement des SIG, là on a une nouvelle problématique qui est beaucoup plus complexe à traiter, notamment toutes ces données calculées. Et là on s'oriente évidemment dans un travail européen, notamment avec les archives nationales du Royaume-Uni, et on fait le pari et on travaille avec les informaticiens, avec alors certains parleront de geek, mais pour redévelopper des outils pour relire ces informations. Alors évidemment c'est un pari, le Royaume-Uni l'a fait de manière concrète, nous on y réfléchit, elle l'a fait de manière concrète avec l'archivage des Jeux Olympiques 2012 de Londres, puisqu'ils ont décidé de conserver toutes les données calculées associées notamment aux modélisations 3D des bâtiments. Et puis ils se sont dit on va conserver uniquement les données calculées et pas les modélisations 3D, pas les images. Et on aura toujours quelqu'un en interne pour refaire un logiciel et remettre en perspective toutes ces données et reconstruire dans 10, 20 ou 30 ans. Alors c'est un pari, mais c'est un vaste champ de recherche aussi à explorer.
Il y avait trois autres questions.
C'était une question extrêmement simple. Vous aviez annoncé une perspective pessimiste. Pourquoi est-ce que c'était pessimiste pour vous ?
Parce que aujourd'hui, face à un État, à une administration centrale qui n'a pas encore, alors même si on a beau le dire avec l'e-administration, la transition numérique, elle n'est pas complète puisqu'on a vu uniquement le volet communication publique, etc. Mais on n'a pas vu toute la partie gestion de l'information. Aujourd'hui, sur les 15 ministères dont nous avons la charge aux Archives nationales, aucun n'a un système de gestion électronique des données centrale, ce qui veut dire qu'on nous produit du vrac. Et donc je ne parle même pas des ministres et des cabinets ministériels qui se servent de leurs propres outils sous leurs propres iPads, leurs propres BlackBerry. Donc je ne parle même pas de ce volet-là. Mais du coup, on est sûr déjà d'avoir perdu beaucoup d'informations, parce que même si on nous fait énormément de versements aux archives nationales, ce n'est vraiment qu'un tout petit bout de toute la production. Et par contre, évidemment, aujourd'hui, l'État travaille, notamment grâce à la création de la DISIC en 2011, travaille à une rationalisation de ses systèmes d'information, de son système d'information, une rationalisation de son urbanisation, pour justement implémenter des gestions électroniques de documents et essayer de préserver ce qui doit être préservé. On estime aujourd'hui dans la production électronique tout confondu, seulement 5% des données reviendront à terme, suite au tri et sélection de l'archiviste, et pas que de l'archiviste, mais reviendront à terme dans les services d'archives, qu'ils soient archives nationales, départementales ou centres d'archives privées.
Jacques Berlioz, centre de recherche historique et ancien directeur de l'école des chartes, avec, bravo d'ailleurs pour votre... magnifique exposé, vous avez été très bien formé.
Merci beaucoup.
Je voulais simplement poser deux questions. La première, on a parlé tout à l'heure on vient de parler de pessimisme. En conclusion, vous avez été très rapide sur cette pétition et sur ce danger. Oui. Est-ce que vous pouvez simplement repréciser les choses ? Et puis, la seconde question, c'est à propos précisément des communications, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire qui consulte, qui pourrait venir et ne vient pas, etc.
D'accord. Alors, pour revenir sur cette pétition, c'est un règlement européen qui vise à l'anonymisation de toutes les données personnelles. Par exemple, donc, si vous changez de propriété, on effacera toutes vos données du cadastre. Si vous changez d'entreprise, l'entreprise effacera purement et simplement votre dossier de personnel. Donc là, c'est deux exemples que je prends. Mais évidemment, ça va avoir un impact fort à la fois sur chaque citoyen, chaque personne, puisque lorsque vous devrez prouver vos droits, par exemple, à la retraite, si vos dossiers sont effacés chez vos précédents employeurs et que la donnée a été perdue, bon courage. Et puis en même temps, en termes de recherche, c'est quand même une perte, j'allais dire, importante, majeure même, puisque nous savons tous que les services d'archives sont pleins de données personnelles. Nous avons une loi qui a différents délais de communicabilité pour justement respecter la vie privée, notamment des personnes. Mais aujourd'hui, nous avons par exemple les fichiers des renseignements généraux, les dossiers de personnel de l'administration centrale, que ce soit éducation nationale ou ministère de l'Intérieur ou de l'écologie. Donc évidemment, autant de données personnelles qui ne pourront pas être réutilisées à des fins de recherche. Et donc vraiment, on va perdre, si ce règlement européen passe, on perdra toutes ces données qui sont fondamentales pour la compréhension de la société aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'Association des archivistes français a décidé de lancer cette pétition la semaine dernière lors de l'Assemblée générale de l'AAF et donc invite tout le... Enfin, c'est pas uniquement les archivistes, hein, c'est vraiment archivistes, chercheurs, citoyens à signer cette pétition, puisque l'État est en capacité de vous protéger. La loi protège chaque citoyen, donc il n'est pas question que l'État publie sur Internet toutes vos données personnelles. Donc voilà. Donc c'est vraiment, je vous incite à signer cette pétition. Et puis, alors, en ce qui concerne la communication et l'accès, alors, qui vient en salle de lecture ? Trop peu de monde à notre goût. Aujourd'hui, la communication, elle se fait en salle de lecture sur le site de Fontainebleau des Archives nationales. Alors, ça peut paraître contraignant, mais cela vient de notre système. Vous pouvez faire une demande de communication. Alors, ne vous attendez pas à avoir tout de suite un lien cliquable sur l'ordinateur de la salle de lecture, puisque nous avons comme obligation de remonter le fichier de notre système d'archivage électronique actuel et de vous préparer la documentation associée. Donc, en fonction du poids et du volume des fichiers, du nombre de fichiers demandés, en général, on donne une fourchette de 48 heures. Donc, ce qui n'est pas satisfaisant pour un service public. Alors, en termes de public, on a à la fois un public de chercheurs, donc c'est très peu, c'est 2 ou 3 chercheurs par an, qui travaillent essentiellement sur nos bases de données. Pourtant, on a énormément de données qui pourraient intéresser les chercheurs en sciences sociales. Par contre, nous avons beaucoup plus de communication administrative, de l'ordre d'une dizaine ou d'une quinzaine par an. Donc, c'est-à-dire, c'est l'administration qui demande à ce qu'on lui recommunique les fichiers qu'ils nous ont versés il y a 10, 20, 30 ans. Donc c'est par exemple le ministère de la Justice récemment sur les archives audiovisuelles numériques du procès Pinochet qui s'est tenu à Paris fin 2010. C'est le ministère de l'écologie qui souhaite revoir un certain nombre de bases de données des années 70 avec les questionnaires associés concernant les accidents de la route. Donc autant de documents qui sont demandés par l'administration, réutilisés parce que cela coûte moins cher. Clairement, le ministère de l'écologie nous a dit ça va nous faire économiser des sous puisqu'on n'aura pas à remonter tout le questionnaire, on n'aura pas à repartir de zéro, on aura cette base qu'on a versée aux archives nationales. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement des communications administratives et aussi des commissions rogatoires pour le coup.
Oui, Daniel Le Touzé. En début, vous avez parlé de mémoire de la France et de l'État. Si je veux travailler sur les 5 années qui viennent de s'écouler, il est évident que la dimension de l'État est importante, mais il me semble aussi que la dimension à la fois de la privatisation et de la dimension de la mémoire de l'histoire militante, de l'Internet militante, est aussi importante. Il y a eu un très bon numéro de la revue Matériaux en 2005 sur ce sujet-là. Quelle place, effectivement, vous avez prévue pour cette mémoire militante, cet Internet militant ?
Alors, pour l'Internet militant, donc... Nous n'archivons pas les sites web, les sites internet sont archivés à la Bibliothèque nationale de France, dans le dépôt légal du web. Par contre, nous archivons alors la mémoire intranet de l'État, évidemment, puisque ça fait partie de nos missions. De même qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes, donc de particuliers également, pour archiver des choses très singulières comme les fils Twitter. Donc on a eu récemment une demande de l'Élysée pour archiver le fil Twitter de notre président. Alors la l'Internet militant, nous avons un certain nombre d'audiovisuels qui concernent cet Internet militant avec des prises de position des différents partis politiques et des différents hommes politiques, des différents ministres sur cette question. Évidemment, des archives très récentes. Nous avons quand même déjà rentré un certain nombre de fonds de la fin de la mandature Sarkozy. Donc nous avons déjà des archives audiovisuelles et toutes les archives audiovisuelles de la présidence Sarkozy ont été versées aux archives nationales. Par contre, pour un certain nombre de fonds, il faudra attendre encore l'année prochaine puisque ça nécessite un grand traitement puisque, grosso modo, les ministres nous versent du vrac. Donc on doit tout reclasser. Donc quand vous avez 5 ans d'action d'un ministre en vrac ou alors avec des macro-dossiers, évidemment c'est un travail assez problématique pour nous. Et en termes de traitement des archivistes qui sont dans les ministères, c'est une tâche considérable. D'autant plus que sur certaines archives, nous avons des commissions rogatoires puisque nous avons des grandes affaires comme l'affaire Mediator, entre autres. Et les archives de Xavier Bertrand ont été versées pour le coup. Monsieur Bertrand a voulu verser à tout prix toutes ses archives sans aucun tri parce que derrière il y avait la peur du procès Mediator et donc il voulait prouver ses droits. Donc pour le coup, le vrac entier a été versé sans tri avec même des archives personnelles, ce qui pose un certain nombre de problèmes aussi pour nous.
Si, Jean-Luc Pinol, directeur du TGE de Nice. J'ai été un tout petit peu surpris que vous ne mentionniez pas le fait précisément que le SIAF, le service interministériel des archives, le TGE et le CINES ont toute une série de conventions pour l'archivage de la recherche. C'est quelque chose d'important. Donc.
Oui, alors vous pouvez le préciser, mais là, moi, je parlais vraiment dans une optique d'archivage définitif. Et donc, évidemment, les conventions du CINES et du TGE Adonis sont uniquement pour l'archivage intermédiaire. Et donc, à terme, toutes les archives du CINES iront dans Vitam.
D'accord, oui. Ça, c'est sûr, mais il y a eu toute une expérimentation, en particulier sur les archives sonores de la recherche auxquelles les archives de France ont participé totalement. Ouais. Merci.